Jamais 203. Format A3.
Nous sommes donc ce matin en compagnie de Patrick Crispini qui donne deux conférences sur Federico Fellini, il maestro de Cinecittà, cet après-midi à Vienne et mercredi prochain à Porrentruy.
Nous revenons à vos rencontres avec Fellini. Un jour, il vous invite à Cinecittà. Ça doit être fabuleux hein, d'entrer dans ce temple du cinéma avec un maestro.
Oui, je voulais juste revenir une seconde en arrière pour préciser pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas le film dont est extrait la musique de Schubert, que les bruits de gallinacés qu'on entend derrière expliquent que tout ça se passe dans la cuisine du paquebot. Et donc, évidemment, on est dans une atmosphère très fellinienne parce qu'à la fois, il y a ces côtés, cette espèce de recueillement et en même temps, on est dans l'outrance habituelle que Fellini adore. Il ne faut pas oublier qu'il a commencé comme caricaturiste, il dessinait pour des journaux comme le Marc Aurel, qui était un journal extrêmement incisif sous le fascisme. Et il a appris, en quelque sorte, à accuser le trait, à le grossir. Et ce qui explique ces grandes matrones, ces postières aux gros seins, ce qui explique beaucoup de choses comme ça, qui sont en fait des archétypes de la féminité ou de ce qu'on veut. Voilà, excusez-moi, je vous ai
On se baladait à Cinecittà, on imagine votre première visite dans ce temple du cinéma en compagnie de Fellini. C'est tout simplement exceptionnel de visiter ce lieu-là avec Fellini.
Oui, mais ça a été, je dois vous dire, chaotique. Parce que on était effectivement à la fin du tournage de Intervista, qui est un film merveilleux, c'est un film crépusculaire de Fellini, où Fellini s'interroge à la fois sur le cinéma, sur la guerre larvée entre le cinéma et la télévision. Rappelez-vous la scène finale qui se passe dans la Gadoue, où vous avez les techniciens du plateau qui sont encerclés par des Indiens qui attaquent le plateau avec des antennes de télévision, hein, métaphore ô combien parlante. On comprend pour Fellini que, bon, le monde qui est en train de se dessiner, qui est un monde virtuel avec la télévision, la publicité qui coupe tout, est un monde auquel il n'appartient pas. Et donc, c'est un film très nostalgique, mais en même temps complètement vivant. On y voit plein d'artistes qui s'agitent de tous les côtés. On y voit Anita Ekberg, on y voit Marcello Mastroianni qui est transformé avec une petite moustache en mandrake. Enfin, c'est un film aussi très drôle. Et il y a là-dedans une équipe de cinéastes japonais qui sont d'abord venus pour faire un entretien avec le maestro. Et finalement, le maestro les a introduits dans son film. Ça aussi, c'est terriblement fellinien. À partir d'un moment qui n'est pas prévu dans le scénario, il y a injection de la réalité et puis on en fait quelque chose. Et c'est ce qui m'est arrivé, en somme. Moi, je l'ai accompagné selon sa volonté. Pour continuer à parler de Nino Rota, on s'est retrouvé dans cette vieille Mercedes qui était très très aux amortisseurs très mous, avec son chauffeur habituel. Et puis moi, je ne savais pas très bien à quelle sauce allait être mangé. Et immédiatement arrivé là-bas avec Malice, il m'a présenté à son assistant Maurizio. Et d'une manière malicieuse, il m'a remis entre ses pattes en lui disant « Si tu as un problème de contrat, ne te fais pas de soucis, c'est un Suisse, il va te le signer. » Voilà, vous voyez, ça, oui. Ça c'est typiquement fellinien. Et il faut, si vous voulez, il ne faut pas avoir de préjugés, il ne faut pas avoir de préétablis, il faut évidemment jouer le jeu. Moi, j'avais la chance de faire de la musique et d'être dans le métier artistique depuis ma plus tendre enfance. Ce qui fait que, si vous voulez, j'ai pas été surpris d'être entraîné dans ce Barnum, mais il faut accepter vraiment de vivre comme ça, d'une manière tout à fait chaotique. Hein. Voilà.
Quand même, une question qu'on peut se poser, c'est, puisque vous l'avez vu travailler, comment est-ce qu'il était lorsqu'il tournait, avec son mégaphone, lorsqu'il lançait les scènes et les répétitions? Est-ce que c'était quelqu'un d'anxieux, de nerveux, ou plutôt de calme, et avec cette réjouissance de réaliser un film?
Alors, il y avait les deux dimensions. On sent à la fois dans son studio Cinque, dans son monde, c'est-à-dire ce studio 5, c'était son univers. Hein. Il s'enfermait dans cet univers où tous ses décorateurs, ses costumiers, son équipe lui avaient recréé, selon ses dessins, les univers qu'il souhaitait. Donc, il était vraiment isolé dans ce monde-là. Il était d'ailleurs, il faut préciser une chose, c'est que Fellini n'est pas un réaliste, bien qu'il vienne du néo-réalisme, mais c'est un enfant gâté qui a trahi le néo-réalisme dans le sens que il se fiche complètement de recréer la réalité telle qu'elle est. Au contraire, je ferai un mauvais jeu de mots, mais il a parlé par exemple de sa ville de Rimini, où il est né.
Attends, Yves Telloni notamment.
On pourrait parler de réminiscence, c'est-à-dire que c'est vraiment, vu par lui, c'est plus du tout la Rimini réelle. D'ailleurs, certains habitants de Rimini ont très mal vu ces films comme Amarcord ou Yves Telloni, qui sont des recréations de cet univers vu à travers, évidemment, la fantasmagorie fellinienne. Alors, pour répondre à votre question, ben, il y avait joie de vivre. Avec ses collaborateurs qui étaient tous complices. C'était comme une ruche, vous savez, qui s'agitait dans tous les sens, mais en même temps avec un maestro qui, lui, connaissait la partition et qui, sous des apparences un peu foutraque, en somme, était parfaitement bien organisé, savait très bien ce qu'il voulait faire. Il y avait donc ces deux dimensions. Et puis, vous savez, une petite anecdote encore, si vous permettez, mais il a fait souvent appel à des acteurs étrangers qui étaient très préoccupés d'entrer dans le cinéma italien, cinéma latin, et en fait, très vite, il s'apercevait que Fellini se fichait complètement de savoir s'il parlait anglais, allemand ou russe, puisqu'il leur faisait dire leurs textes sur des numéros. Il leur disait, ouvrez la bouche et vous dites 1, 2, 3, 1, 2, 3. Toute la scène la plus torride de Casanova avec Donald Sutherland, un des moments les plus intenses du Casanova, Sutherland n'a pas dit un mot d'anglais, il n'a fait que de réciter des chiffres. Tout se faisait en post-synch, en post-synchronisation. Et donc, tout était recréé de A à Z, y compris le son. C'est pour ça qu'il faut voir Fellini vraiment comme un artiste au sens le plein du terme, parce que ce n'est pas un homme de technique, c'est un homme qui contrôle son univers du début à la fin, depuis les peintures du décor jusqu'aux vibrations des sons, de la musique, de tout.
Patrick Crispini, merci beaucoup. On sait qu'on aurait pu dire et demander encore beaucoup de choses. Vous tournez, on le rappelle, actuellement aussi avec votre spectacle consacré aux musiques de Nino Rota. Mais surtout, cet après-midi, vous êtes à Vienne et mercredi prochain à Porrentruy. On va donner toutes ces informations sur la page internet de Format A3. Merci.
Je serai aussi à Neuchâtel, si vous permettez.
Oui, alors dites-le.
Voilà, je suis un mauvais vendeur parce que je me souviens plus des dates.
On va les trouver.
Je crois que c'est le 16 ou le 17 mars, je suis à Neuchâtel.
Oui, et il y a un atelier particulier, je crois.
Il y a un atelier l'après-midi, qui est, je crois, ouvert à ceux qui s'y intéressent.
On mettra tout ça en ligne.
Consacré à notre maestro.
Merci de nous avoir fait partager votre premier café avec Federico Fellini. Une très très belle journée et à bientôt.
Merci à vous tous.
Merci beaucoup.
Merci.